Je disais donc que Jean-Pierre m'avait promis de laisser la salle dans une belle énergie. Donc je te remercie vraiment. Mais en fait, je démarre depuis un espace où je suis hyper émue. Déjà, je me suis laissée bouleverser par les photos de la planète. Et je me suis laissée aussi atteindre quand tu partageais les 8 milliards d'individus séparés, avec cette idée peut-être de tendre vers un organisme unique. Tu disais tout à l'heure, Thierry, qu'on était un peu addict à la technologie. Et moi, en fait, j'ai fait le choix aujourd'hui d'animer en fait cette rencontre sans technologie, avec une craie et un tableau noir. Pour être un micro, certes, mais ma préférence souvent, c'est justement de ne pas avoir de micro aussi. Et que le thème, c'est l'origine de la violence. Alors, je vais vous parler de l'origine de la violence selon la vision de Marshall Rosenberg, qui est à l'origine du processus de la communication non violente. Tout ce que je vais vous partager, c'est ce qu'on m'a offert. Donc, merci d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire une des choses que je préfère, qui est d'offrir ce que je reçois depuis quasi 20 ans maintenant. Et que ce que je vais vous partager, il n'y a pas de certitude. C'est juste des propositions. Et je vous invite à préserver votre esprit critique et à ne prendre que ce qui va vous sembler important pour vous. Et vraiment, j'insiste. Pourquoi ? Parce que amener un changement de paradigme, c'est jamais simple, parce que ça remet en question énormément de choses, et qu'aujourd'hui, même on a beau avoir des preuves, on a beau vivre des évidences, eh bien, il y a des composantes émotionnelles, psychologiques, qui font que quand on envisage de changer de paradigme, eh bien, ça peut toucher à notre identité, ça peut toucher à notre cohérence intérieure, ça peut même toucher à notre vision du monde, et que beaucoup de résistances viennent de là. Donc, la plupart du temps, quand on arrive à des nouveautés, il se passe plusieurs phénomènes. Un premier phénomène qui est un phénomène de rejet, c'est nul et non avenu. Bon, ben, c'est bon, ça, on fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, alors on va continuer comme ça. Et là, on n'avance pas ou peu. Quelquefois, on est tenté de prendre des nouvelles données et de les intégrer dans un paradigme existant, ce qui serait à peu près légitime. On voudrait faire rentrer le bazar dans ce qu'on connaît déjà parce que ça donne de la sécurité. Et puis en même temps, on a beau tenter de faire rentrer le bazar, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'objections. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment, et j'aime bien quand tout converge, c'est est-ce qu'on continue de faire ce qu'on a toujours fait ou est-ce qu'à un moment, on envisage de changer certaines choses. Donc, je vais démarrer en fait des travaux de Rosenberg où lui, quand il se fait casser la figure à l'âge de 7 ans, il est obsédé par le sourire de ceux qui lui cassent la figure, en se disant comment certaines personnes peuvent prendre plaisir à tabasser quelqu'un, quand d'autres personnes, et en l'occurrence c'est ce qu'il vit en parallèle, il voit sa propre maman et son oncle prendre soin de cette grand-mère qui a beaucoup pris soin de lui dans fin de vie, et il les voit sourire, et ça va être une quête. Et quand il fait ses études de docteur en psychologie, il veut comprendre le fonctionnement, en fait, de l'être humain, au sens où qu'est-ce qui fait qu'a priori, à un moment, on pourrait basculer dans plus de violence que ce pour quoi on est programmé. Quand moi j'ai rencontré ce processus de communication non violente, j'y allais pour comprendre la violence des autres. Franchement, et je dis souvent en blaguant dans mes débuts de formation, moi j'y allais pour changer ma belle-mère. Avec vraiment la certitude que j'allais enfin trouver un machin qui allait me permettre de faire changer les autres. Et puis, j'ai pris une énorme claque parce que regarder la violence dans le monde, et c'est ce que disait Thierry aussi tout à l'heure en introduction, c'est prendre conscience de la violence qui est la nôtre. Et j'ai pris conscience du niveau de violence qui était la mienne. Et au bout de 2 jours, j'ai vu que j'étais un terroriste, en fait, à moi toute seule. Et ça a été violent de voir ma propre violence. Alors, Rosenberg, je veux bien que vous puissiez remonter le bazar, là. Et donc, Rosenberg va passer sa vie à tenter de comprendre si cette violence qui est la nôtre à certains moments, elle n'est pas directement en lien avec un langage qui nous conditionne. Et donc, il va faire le pari d'aller regarder ce qui se passe dans certaines tribus dites primitives, d'observer ce qui marche et comment nous, à certains moments, on peut devenir extrêmement violent alors que ce n'est pas notre intention. Oh, ben, il y a quelqu'un qui a écrit sur le tableau. Comment c'est possible? Voilà le plus haut niveau de technologie que je vais vous proposer. Alors avant tout, je vais vous proposer une petite expérience parce qu'on a vu aussi que l'essentiel, finalement, c'est le lien à soi et aux autres. Et donc, je vais vous inviter à vous relier à un moment où vous avez contribué, soit pour vous-même, ou soit peut-être pour quelqu'un. Donc, de vous relier à un moment où vous avez contribué pour vous ou pour quelqu'un. Et puis de regarder à cet instant comment ça fait à l'intérieur quand vous vous voyez comme un être de contribution pour vous ou pour quelqu'un, en sachant que l'autre n'est jamais qu'un aspect de nous-mêmes. Et puis peut-être si vous prenez le temps, regardez à cet instant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important? Est-ce que ça a nourri? Bien sûr qu'il y a la contribution, mais peut-être ça a nourri encore quelque chose de plus précis à l'intérieur de vous. Que nous, à certains moments, dans notre jargon avec la communication non violente, on appelle des besoins. Certains appellent ça des forces motrices. Vous voyez, par exemple, moi je reviens de 4 jours où j'ai soutenu ma fille qui a 2 bébés. Et quand je me relie à ça, je vois qu'il y a à la fois de la tranquillité et que ce qui m'anime, en fait, c'est le soutien. Et je vois que ce qui a été nourri, c'est ce soutien, en fait, de voir que dans cette micro-société qui est la famille, qu'à certains moments, voilà, il y a ce mouvement de soutien. Et donc, je vous invite maintenant à partager à la personne la plus proche de vous, essayer de faire des binômes, des trios, comme vous voulez, ben justement, comment vous vous sentez en étant relié à ce moment de contribution? Et surtout, est-ce que ça nourrit quelque chose de particulier de faire ce mouvement-là? Donc, je vous laisse à peu près 1 minute de partage. Et puis, si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, surtout, vous faites autre chose. D'accord? Tout va bien. Il n'y a pas d'obligation. Alors, pourquoi je vous ai proposé cette expérience? Parce que quand Rosenberg, il y a plus de 60 ans, démarre sur cette croyance, les êtres humains aiment contribuer, ça semble complètement fou et non avenu. Or, aujourd'hui, en psychologie, on est tout à fait capable de prouver qu'un enfant, à la naissance, naît avec cet élan de contribution. Et donc, tout son travail a été d'aller regarder, finalement, est-ce que si on changeait de croyance, ça influerait ou pas le monde de demain? Pas parce que ce qu'il propose c'est mieux, mais ce serait différent. Et donc il s'est rendu compte que nous, en tout cas moi, mais peut-être je suis la seule, j'ai été éduquée avec une croyance qu'il existe le bien et il existe le mal, et que si on démarre de cette croyance-là, peut-être que les êtres humains ignorent le bien et le mal. Et que quand on travaille sur les origines de la violence, eh bien si on démarre de cette idée que les êtres humains ignorent le bien et le mal, on va les éduquer d'une certaine manière. Et donc la force de Rosenberg, eh bien ça a toujours été de faire des schémas qui se ressemblaient d'un paradigme et d'un autre, en étant capable de nous offrir, en fait, de voir les conséquences, pas que ce soit bien ou mal, mais de voir que si on continue ça, il y a des conséquences, et si on s'oriente vers ça, il y aura d'autres conséquences. Juste ça. Alors, si on démarre du présupposé que les êtres humains ignorent le bien et le mal, eh bien, on va les éduquer à reconnaître le bien, et on va les éduquer à reconnaître le mal. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, quand le petit va faire des trucs bien, on va lui fourguer des récompenses. Et puis, s'il fait mal, eh bien, il est possible qu'on l'éduque à coup de punition. Et que pour arriver à faire ça, eh bien, on va intégrer, on va reproduire un langage qui est celui avec lequel on a été éduqué depuis la nuit des temps. Et donc, Rosenberg a mis en évidence des habitudes de langage qui peuvent susciter des réactions et ou en tout cas qui diminuent la motivation à contribuer. Et donc, quand nous, on travaille dans les stages sur ces habitudes de langage, eh bien, on voit qu'on a été conditionné à juger et dans les jugements, on a été conditionné à voir la vie d'une manière binaire, bien mal, tort raison, et que comme on a tous été éduqués à avoir raison, ben, il y a un moment, ça ne marche plus. Et donc, à force de vouloir avoir raison, eh bien, à un moment, on se fiche sur la tête et que ce n'est pas l'objectif. Et donc, quand on éduque l'enfant avec ses références, eh bien, on développe des adultes qui ont plus de références externes que ce qui serait nécessaire. Je traduis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous dit si on fait bien ou si on fait mal. Après, c'est le parent qui nous dit si on a froid, on a chaud, si on a faim, ou etc., etc. Et donc, c'est comme si à un moment, on perd notre boussole interne. Et que quand on éduque comme ça, eh bien, on va développer et maintenir des systèmes de domination, de compétition, ou d'une certaine manière, eh bien, il vaut mieux être en haut de la pyramide qu'en bas. Il vaut mieux être le juge que le jugé. Il vaut mieux être le prof que l'élève. Il vaut mieux être le parent que l'enfant. Peut-être qu'il vaut mieux être le président que les présidés. Ça, je ne sais pas. Donc, on voit que ce schéma, en fait, entretient un mode qui va nous amener à vivre de la violence les uns avec les autres, alors qu'a priori, ce n'est pas notre nature. Donc Rosenberg s'est dit, si on démarre d'une autre croyance, qui sont que les êtres humains aiment contribuer, c'est que peut-être en amont, et il a été très inspiré par Rumi quand il disait « il existe un lieu au-delà du bien et du mal, et c'est là où j'aimerais t'y rencontrer », il s'est dit « il y a certainement des forces de vie à l'intérieur de nous qui cherchent à s'épanouir », ce qu'il a appelé, dans notre jargon toujours, les besoins. Et donc, quand on part du présupposé que les êtres humains aiment contribuer, bien sûr qu'il va être question d'éduquer au sens noble, éduquer, montrer le chemin. Alors on va accompagner les petits êtres d'une manière différente, on ne va pas utiliser les mêmes moyens, les punitions, les sanctions, les menaces, les récompenses. On va faire grandir les êtres humains dans la conscience des besoins mutuels. Nous avons tous les mêmes besoins. Nous n'avons pas forcément la même manière de les nourrir. Peut-être que si moi, je veux me reposer, je vais aller marcher dans la forêt, quand peut-être certains d'entre vous, vous allez faire une sieste, écouter de la musique, ou peut-être appeler un copain, une copine. Ce qui nous réunit, ce sont les besoins. Donc si on éduque les enfants dans la conscience des besoins mutuels, eh bien, on va aussi les éduquer à maintenir l'empathie qui est la nature première de l'être humain, cette capacité à pouvoir se relier sincèrement à ce que l'autre vit sans chercher à faire autre chose que de se relier à ce que la personne vit. Et puis, dans cette conscience-là, on va faire grandir les enfants dans ce qu'on appelle aussi encore, nous, l'auto-empathie, c'est-à-dire la conscience que les émotions, elles sont fondamentales et qu'elles sont porteuses, de messages directement en lien avec les besoins. C'est-à-dire que plus je vis des choses agréables, plus c'est le témoin que certains besoins sont nourris. Et plus je vis des choses désagréables, plus c'est certainement le témoin que certains besoins cherchent à être entendus. Et que si je fais grandir les enfants dans cette conscience-là, et que je les soutiens pour dire authentiquement ce qu'ils vivent, Eh bien, comme conséquence, les enfants vont grandir avec des références internes et relatives. Je ne suis pas en train d'opposer les références internes et externes, juste c'est comment je peux trouver un juste milieu entre la réalité de ce que je vis et aussi, bien sûr, d'entendre à certains moments ce que les autres aussi peuvent m'apporter. Mais vraiment d'asseoir ces références internes. Pourquoi ? Parce que si on éduque les enfants comme ça, il est fort à parier que nous allons créer des systèmes de coopération, des systèmes de collaboration, où précisément, et c'est là où je te rejoins Jean-Pierre, on va intégrer cette conscience de l'interdépendance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue, seule la coopération et la collaboration vont faire qu'on s'en sorte ensemble. Et que dans ces systèmes-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces notions d'autorité. C'est juste que les gens, en fait, qui sont en haut de la pyramide, eh bien, ce sont les gens qui nous inspirent, à qui on donne le pouvoir parce qu'ils marchent depuis plus longtemps sur le chemin que le nôtre. Et c'est comme si, en fait, on équilibre, en fait, nos sociétés différentes et, surtout, eh bien, on maintient la nature humaine. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu majeur de regarder, est-ce qu'on continue à entretenir ce paradigme qui est un paradigme de séparation? Je répète, hein, tout est fait pour nous séparer. Le bien, le mal, juste, faux, tort, raison. Ou est-ce qu'à un moment, je reviens dans on est issu d'une même essence, la contribution c'est notre nature, et comment on va éduquer d'une manière qui va augmenter les chances de cette conscience. Et là où moi j'ai beaucoup de gratitude pour Rosenberg, c'est sur le fait que on est passé d'une forme de théorie avec des moyens concrets de mettre en application ça. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, il m'a donné les moyens de traduire mes jugements, il m'a donné les moyens de prendre la responsabilité de mes émotions et de mes actes, et il m'a donné les moyens de sortir des ordres ou des punitions pour aller vers le lien. Et donc, je voudrais terminer ce propos avant peut-être d'entendre peut-être un ou deux retours, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, sur cette métaphore qui, moi, m'a beaucoup marquée et qui continue de me marquer, où Rosenberg dit « Vous imaginez au bord d'un fleuve, et puis vous voyez un enfant qui se noie, alors forcément vous sautez dans la rivière, et puis vous sauvez cet enfant. Et puis au moment où vous avez fini de prendre soin de ce petit qui allait se noyer, vous envoyez un deuxième. » Alors forcément, vous sautez dans la rivière pour sauver le deuxième. Et puis un troisième, un quatrième. Et donc la question que Rosenberg posait, c'était la suivante. Est-ce qu'on va passer toute sa vie à sauver les bébés dans l'eau? Ou est-ce qu'à un moment, on va regarder qui jette les bébés dans l'eau? Et si on est là aujourd'hui, nous, eh bien c'est pour avoir la conscience de comment nous jetons les bébés dans l'eau ensemble en reproduisant des schémas qui ne nous permettent pas de dézoomer, c'est-à-dire d'être ce petit prince-là qui voit le bazar, et que tout l'objet de la communication non-violente, c'est de devenir conscient, et c'est pour ça qu'il a choisi la girafe, vous verrez sur le stand de mes collègues là, de l'Association française des formateurs certifiés, vous verrez une girafe. Il a choisi ce symbole, pas parce que la girafe, elle regarde les choses de haut, hein, ni les gens de haut, mais elle regarde avec un point de vue différent, et de regarder, est-ce qu'aujourd'hui je peux grandir en conscience, observer le langage avec lequel j'ai été éduquée, pas du tout parce que c'est mal, j'aimerais vous dire que nous sommes issus de ce système, et nous sommes de belles personnes. Il n'y a pas de critique. C'est juste de voir qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où il y a des conséquences, on a perdu la conscience de notre interdépendance et que le système de compétition et de domination nous isole les uns des autres. Et peut-être qu'on pourrait tendre vers quelque chose qui nous fasse expérimenter le « un », cette essence commune que nous avons et de laquelle tu as parlé et laquelle aussi j'ai travaillé là sur la continuité de la conscience, et donc de développer l'art de se voir faire et de regarder est-ce que ce que je suis en train de faire c'est au service ou pas du monde dans lequel je rêve de vivre pour moi, les jeunes, les enfants et toutes les créatures qui composent cette terre qui est la nôtre. Donc je vous remercie pour votre attention et comme ça il reste 3 minutes peut-être pour entendre vos retours, parce que peut-être que pour certains c'était choquant, peut-être que pour certains c'était à des années-lumière de votre vision, et voilà, je suis prête à entendre si c'est ok pour certains ou pas du tout pour d'autres. Laisser un petit temps pour l'interaction, du partage. Et je peux entendre que ça vous ait agacé au plus haut point, que les choses soient très claires. Ouais, tu veux dire ? Alors déjà, moi je me dis que si je l'incarnais au quotidien à 100%, je serais déjà vachement contente. Parce qu'il y a quand même des fois où mon conditionnement 8000 ans l'emporte sur ma petite pratique de 20 ans. Donc il y a des fois je me dis, oh là là, là ça branle un peu dans le bateau encore. Donc déjà, l'objectif de l'incarnation, pour moi, il est majeur, et merci de... Et puis après, j'entends combien c'est plus simple dans un... avec des gens un peu conquis que... Et en même temps, eh ben, c'est pas toujours mon expérience. Je vois en fait que dans notre entre-soi, quelquefois, eh ben, c'est pas aussi évident que ça. Et que moi qui, dans mon expérience d'infirmière scolaire et d'animatrice de prévention pendant 10 ans, j'ai traversé les lycées d'Île-de-France, voilà. Et ben, je voyais que la posture d'amour avec laquelle j'arrivais dans les classes, c'est ce qui faisait la différence. Et j'aime me souvenir de ça. Parce que le regard que je porte sur l'autre... Je crois que c'est ce qui fait la... Enfin, en tout cas, dans mon expérience, je ne sais pas te dire autrement. C'est vraiment ça, en fait, moi, qui me marque aujourd'hui. Et que, quelquefois, dans nos milieux dits conscients, je ne sais pas s'il n'y a pas une part de nous qui se prend un peu au sérieux. Ça doit être le personnage, je ne sais plus lequel, du petit prince, là. Ou, oui, alors là, oui, vu mon niveau de conscience, il y aura un truc qui ferait un peu ça. Et je me demande si, dans nos entre-soi, on ne se heurte pas, quelquefois, sur des chamailleries de conscience. C'est là où j'en suis dans mon interrogation. Mais le regard de l'amour, ça me bouleverse. Parce que quand je travaillais sur la prévention du suicide avec les adolescents, je travaillais sur une question avec eux, qu'est-ce qu'il y a d'unique et d'inspirant chez toi que tu apprécies ou que tu imagines que les autres apprécient ? Et il y a un gosse un jour qui me dit, mais madame, vous nous prenez pour des intellos et tout, c'est trop compliqué votre question. Et donc je dis, ben, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je crois que je suis quelqu'un d'assez authentique et s'il y a un truc qui ne me va pas, je vais... Il dit, mais même le mot authentique, moi, je ne le comprends pas. Et il y en a un qui traduit, qui dit, je crois que si on la fait chier, elle va nous le dire. Et donc, le gamin en question dit, ah non, alors madame, ça, c'est pas votre compétence. Je dis, ah bon ? Il dit, non, vous avez de l'amour dans vos yeux pour nous. Et ça m'a bouleversée. Et je crois que l'enjeu, il est là. C'est... Alors, pour moi, quand je dis c'est un enjeu, c'est un défi au quotidien. Parce qu'il y a plein de gens que j'aime pas. Mais c'est vrai. Donc, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Dans certains moments, je me sens, puis l'instant d'après, il y en a, j'ai juste envie de les torpiller. Donc, tu vois, ça rend, enfin, pour moi, ça rend humble. Donc, merci pour ta question.